Bonjour à tous. Ça n'a pas dû vous échapper. Aujourd'hui, c'est Pâques. Bon, je sais ce que nous, on sait sur Pâques. Mais je me suis imaginée en train de faire un micro-trottoir dans Guebwiller. Bon, les jeunes, vous ne savez pas ce qu'est un micro-trottoir, mais de mon temps, quand moi j'étais jeune, c'était des gens qui posaient des questions. Bon, maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça. Hein. Et voilà, je me suis imaginée faire ça, et le panel des réponses pourrait ressembler à cela. Pâques, voyons, ça pourrait être du temps en famille. Bon gigot d'agneau cuit à point, je ne vais pas trop tenir longtemps. J'ai là, que tu puisses mettre le tien au four. Les chocolats, la chasse aux œufs dans le jardin, le printemps, regardez ça, c'est magnifique, les cloches. Quand j'étais petite, mes parents habitaient tout près de l'église du village et le matin de Pâques, c'était une symphonie. Je ne les ai pas entendues ce matin, mais bon. Ah, elles ont sonné, voilà. Un vendredi et un lundi, deux jours fériés, ça c'est top alors. Puis pour les plus, ceux qui ont été les plus attentifs, ils ont peut-être entendu parler d'un coq qui chantait. D'ailleurs, il est venu ce matin. Allez, viens. Voilà, ça c'est le coq qui a chanté le jour de Pâques. Juste avant. Allez. Et c'est vrai que Pâques, c'est tout ça. Mais c'est surtout un jour merveilleux pour l'humanité. La victoire de la vie sur la mort dans la personne de Jésus. En fait, pour nous, tous ces détails, le chocolat, le gigot, temps en famille, ça arrive une fois dans l'année. Mais Pâques, pour toi et moi, c'est tous les jours. Parce que Jésus est ressuscité et il est toujours vivant. Alors, vous pourrez relire le récit de la Pâque dans les quatre évangiles. Vous savez, la sensibilité de chacun des auteurs, ça donne un éclairage différent et je trouve que ça fait quelque chose de très riche et de très complet. C'est ce que j'ai fait et ça m'a donné une idée de voyage. Vous venez avec moi? Je vous invite à monter avec moi dans la machine à remonter le temps. Bon, on n'en aura pas pour longtemps, hein, n'ayez pas peur, juste une vingtaine de siècles. Et pas de souci pour le prix du carburant parce qu'elle est auto-rechargeable. Alors, on va faire juste une petite incursion dans les quelques jours qui ont précédé la résurrection de Jésus, en l'an 33 de notre ère, bien sûr. Prêt? Oui? Allez, boum, 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 boum! En 2000, en 1000, en 100, en 33, on ralentit. Mois de Nissan, samedi 16, vendredi 15, jeudi 14, stop! On s'arrête. Ce jeudi-là, Jésus se prépare à prendre le premier souper de fête avec ses 12 amis. Et dehors, il y a une sale ambiance. Et ça alourdit l'air. Les religieux veulent absolument se débarrasser de ce personnage qui leur fait de l'ombre et qui les dérange, mais alors à un point qu'on ne peut pas savoir. Et les disciples ressentent que ce temps est bizarre. Puis bon, il y a eu d'abord cette histoire de parfum, vous savez, versé sur la tête de Jésus, et cette explication difficile à comprendre qu'il en a donnée. Une histoire de préparation de son corps. Ils n'ont rien compris, les disciples. Et puis, ces 300 deniers, franchement, quand même, ils auraient pu servir à autre chose. Alors j'ai regardé sur Internet, évidemment, et tenez-vous bien, 300 deniers, ça ferait entre 40 000 et 55 000 de nos dollars actuels, soit à la louche 45 000 euros. Je comprends que les disciples, ils y aient grincé des dents. Hein. Cet argent, on aurait pu faire autre chose avec. Et maintenant, voici qu'il remet cela. Un de vous va me livrer. Rien de mieux pour semer la suspicion. Hein. Chacun disait, oh, c'est pas moi, j'espère. Oh, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Tout le monde a commencé à se regarder comme ça. Jésus n'en a pas dit plus. Mais au bout d'un moment, Judas s'est senti mal à l'aise et il va s'éclipser. La machine est en route, mais seul Jésus le sait. En attendant, ce repas prend une tournure vraiment spéciale. Jésus parle de sa volonté que les disciples perpétuent ce partage en souvenir de moi. C'est quoi encore ce truc? Pourquoi en souvenir de lui puisqu'il est avec nous? Vraiment, là, ça va pas du tout, hein. Et comme la succession de ces événements, de cette journée déconcerte ce cercle d'hommes, c'était des vrais hommes, des pêcheurs, Pierre, voulant rassurer Jésus, se pose en Superman pour empêcher que ceux dont Jésus parle et qui les dérangent tous n'arrivent. Je serai toujours là pour toi, maître. Personne ne te fera du mal. Et là, Pierre attend, les yeux fermés. La gratitude de Jésus, sa reconnaissance, ses remerciements. Et que lui dit Jésus? Douche froide, hein? Alors, le chant du coq retentira et tu auras dit trois fois que tu ne me connais pas. Franchement, ça c'est le bouquet. Comment est-ce que Jésus peut douter de moi? Franchement, j'ai toujours été là pour lui. Pierre est fâché. Bref, rien n'est comme d'habitude. Et sûrement qu'ils ont tous besoin de prendre l'air. Alors ils sortent et Jésus part avec trois d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean, dans le jardin de Gethsémané. Et lui, il sent l'angoisse qui monte parce que lui, il sait. Et il s'éloigne pour prier. Quand il revient vers les disciples, eux, ils avaient trop mangé à midi, ou le soir, c'était le soir. Et puis, ou alors il y avait trop de soucis, trop de trucs. En fait, ils s'étaient octroyés une petite sieste. Et ça accentue encore l'isolement de Jésus. Jésus se sent abandonné. Il les réveille, il repart prier, il revient. De nouveau, ils dorment. Bon, ils les réveillent et cette fois-ci, les choses vont s'accélérer. C'est dans ce jardin et à ce moment-là que Judas conduit les détracteurs de Jésus pour qu'ils l'arrêtent. Pierre, fidèle à ce qu'il pense être juste, sort son épée pour défendre Jésus. C'est bien ce qu'il a dit, je serai toujours là pour te défendre. Et voilà que son épée pourfend l'air et puis une petite oreille qui s'est trouvée au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais Jésus l'arrête, il lui dit « range ça ». Et il guérit ce soldat qui avait été blessé. Alors là, c'est la débandade. Jésus est amené, les disciples se dispersent. Et par contre, Pierre, lui, il va suivre. Il va suivre, mais de loin. C'est intéressant quand même de voir ce qui va se passer, mais je ne veux pas m'être mêlé à cette affaire, hein. Il va être interpellé par trois personnes différentes et qui lui diront « Mais attends, tu t'y es pas avec lui, toi ?»« Bon non, qu'est-ce que tu racontes ? N'importe quoi hein. !» Puis une autre fois « Mais je te reconnais, toi ! Tu étais aussi avec lui, avec les 12 là, tu sais ?» Mais non, c'est quelqu'un qui me ressemble, mais c'est pas moi, mais non !» Pierre s'assied près du feu, et là, une autre personne lui dit « Mais toi aussi, tu étais avec lui ?» Et il dit « Mais franchement, je ne sais pas où vous allez chercher ça, je ne l'ai jamais vu !» Et à ce moment-là, un énorme cocorico retentit aux oreilles de Pierre. Pauvre Pierre. Mais on va le laisser à son introspection et on va accompagner Jésus. C'est important parce que nous, on n'a pas envie de suivre de loin. Hein. Alors les accusations pleuvent, plus dissonantes les unes que les autres. Jésus est arrêté. La nuit tombe et les acteurs de cette actualité folle remettent la suite, le dénouement au lendemain. Donc on remonte dans notre voiture, vroom, 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 vendredi matin. Après bien des cris insensés, tout le monde s'est levé de bonne heure ce matin-là. Et puis, il y en avait qui avaient accusé de Jésus de plein de trucs. Mais bon, finalement, la sentence tombe. Jésus est un imposteur. Il doit mourir. Pilate, il n'est pas convaincu. En plus que sa femme lui a fait dire, fais attention avec cette histoire parce que je ne suis pas très à l'aise avec ça. Hein. Ne te mouille pas trop. Hein. Et donc, il essaye de s'en sortir. Et alors, il leur dit, mais vous savez, là, dans la prison, il y a un gars, un vrai brigand, celui-là, c'est Barabbas. Si vous voulez, on fait l'échange. On libère Jésus et on crucifie Barabbas, ce qui serait tout à fait juste. Mais la foule est déchaînée et Pilate va capituler. Jésus sera donc crucifié. Pardon si j'ai fait des erreurs de temps, mais il me semble que c'est en début de matinée que Jésus va être crucifié et que c'est vers midi qu'il va rendre l'âme. 3 heures d'agonie, parce qu'il nous aimait. Et quand Jésus va rendre l'âme, la nature se détraque, la terre tremble, il fait nuit alors qu'il est midi, les sépulcres s'ouvrent, les gens sortent. Mais franchement, tous ces gens pleins de haine, ils sont tellement remplis par la haine qu'ils ne remarquent même pas. Ils ne voulaient qu'une chose, c'est que Jésus soit crucifié. Et le voile du temple se déchire, non pas, vous savez, non pas comme ça, parce que le tissu pesait trop, mais comme ça. Et ce n'était pas de la mousseline mangée par les mythes. Hein. C'était, quand on voit la description du voile du temple dans le Pentateuque, c'était quand même un tissu solide. Hein. Et le seul qui va réagir à ça, c'est un officier romain qui est ébranlé et touché par ce que Dieu fait. Je vais dire ça. Je crois vraiment que c'était le Fils de Dieu. C'est le seul. Alors, je me suis amusée à imaginer les réseaux sociaux. Vous savez, Facebook, X, ou je ne sais plus ce qu'il y a encore, parce que moi, je suis sur aucun. Et puis, vous savez, les bandes annonces qu'il y a en bas de nos téléviseurs. L'échec de ce Jésus qui se disait roi des Juifs, point d'exclamation. Rome a vaincu. Celui qui détournait les foules de l'obéissance à la loi est mort. Le lâchage d'un de ses principaux supporters, monsieur Simon-Pierre. Alors là, ça y allait, hein. Ça y allait. Jésus était mort. Et puis plus rien. Jésus est mis dans un tombeau. La grosse pierre est roulée, c'est le sabbat. Silence, sidération, un choc énorme. Tous ceux qui aimaient Jésus sont complètement anéantis. Bon, nous, on va respecter le sabbat. On remonte dans notre voiture, boum, 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 et on arrive dimanche matin. Alors, les femmes qui accompagnaient Jésus ont décidé de l'honorer en préparant le corps comme c'était la coutume, avec des herbes, des aromates, des parfums. Et pendant tout le sabbat, elles se sont creusées la cervelle en se disant « Mais comment est-ce qu'on va réussir à rouler la pierre ?» Finalement, elles n'ont trouvé aucune solution. Et elles sont quand même allées sur les lieux. Et là, oh surprise ! Plus de grosses pierres. Mais qui a bien pu faire ça ? Un ou deux disciples discrets, ouais, ouais. Les connaissant, mais bon, pourquoi, peut-être, pourquoi pas. Donc elles s'encouragent. Allons-y les amis, c'est pas un moment facile pour elles. Elles vont découvrir le corps mort de celui qu'elles aimaient, qu'elles avaient suivi. Et là, encore une surprise dont elles ne savent pas si elle est bonne ou mauvaise. Le tombeau est vide, quelqu'un a volé le corps. Oh, encore un truc, c'est pas possible. Mais un ange est assis là sur la pierre et les renseigne. Non, 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 vous inquiétez pas. Jésus est revenu à la vie. Il vous précède en Galilée, il vous l'avait dit. Alors là, elles sont folles de joie. Vous savez, quand des femmes sont folles de joie, elles le montrent. Hein. Elles se mettent à courir, elles criaient, elles étaient heureuses et tout. Elles arrivent auprès des disciples, elles étaient essoufflées. Oh Jésus, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Et puis, elles attendent l'explosion de joie des disciples. Grand silence. Elles les regardent. Les disciples se regardent entre eux, puis font. Ils les prennent pour des folles. Incrédulité humaine, mémoire défaillante. Leur foi est-elle tombée au fond d'un puits ? Allez savoir. Pierre était là aussi. Parce que l'évangéliste de Marc, au chapitre 16 et au verset 7, précise aux messagères, « Maintenant, allez dire à Pierre et aux autres disciples. » Allez dire à Pierre. Ils étaient 12. Mais allez dire à Pierre. Pierre entend la nouvelle et il se sent mal, il se sent mal. Jésus est vivant. Et le poids de sa propre attitude devient écrasant. Bon, il se dit, allez, maintenant, c'est bon, je ne veux plus y penser. Je retourne à la pêche, au moins avec les poissons, je n'aurai pas de problème. Mais essayons d'accompagner Pierre dans son raisonnement. Parce qu'il va peut-être retourner à la pêche. Mais dans sa tête, ça va toujours sous-cyclété. Hein, vous savez, la sous-cyclète qui est là. Hein. Ce qu'il vit, est très difficile. Parce que ça brise l'illusion qu'il avait d'être fort et de pouvoir contrôler les choses. Et dans les brumes de tous ces événements qui se sont suivis en cascade, une parole de Jésus est enfouie sous le dégoût de soi que Pierre éprouve. Jésus a dit quelque chose d'important, mais c'est quoi déjà? J'arrive pas à mettre la main dessus. On va aider Pierre. Dans Luc 22, 31 à 32, voilà ce que Jésus a dit à Pierre. « Simon, Simon, écoute. Satan a demandé de pouvoir vous secouer comme on secoue le grain dans un vent pour le séparer de la paille. Mais moi, j'ai prié pour toi, j'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. » Il y a plein de choses dans ce verset. Jésus savait, il savait et il savait. Ce que Pierre ne sait pas encore, Jésus le savait déjà. Et quand il lui a dit ça, c'était juste avant qu'il fasse le fanfaron, vous savez. Et ça nous arrive parfois aussi de pouvoir nous comparer, nous reconnaître dans Pierre. Alors nous exhortons nos amis avec des paroles, des belles paroles venant de la part de Dieu, et ça nous fait paraître fort. On dit qu'est-ce qu'il est spirituel, lui, alors là, hein. Et puis quand nous nous retrouvons dans certaines situations, nous ne sommes plus capables de faire vivre ce que nous avons dit. Pourtant, nous étions sincères, hein, quand on l'a dit. Et on était même persuadés que c'était très bon pour la personne à qui on parlait. Le problème, c'est que nous ne sommes pas conscients forcément de l'alignement de ce que nous disons, de ce que nous faisons et de ce qui transparaît de nos vies. Pierre, il en était là. Humainement, il a échoué. Mais cet échec n'a pas modifié la parole que Dieu a mise sur sa vie. Et on échoue tous, plus ou moins. Et si quand j'échoue, ça m'enlève toutes mes illusions, ça me dérange, ça révèle des choses qui sont cachées, ben, mon échec ne va pas modifier la parole que Dieu a mise sur ma vie. Il va juste mettre en lumière quelques petites choses que je dois travailler. Jésus a dit, quand tu reviendras vers moi. Ça veut dire qu'il n'a pas modifié son idée sur la vie de Pierre. Et quand on voit ça, on se dit, mais l'échec, c'est presque une opportunité. C'est comme une porte ouverte pour que nous puissions voir ce que nous pouvons changer pour faire être plus dans la meilleure version de nous-mêmes. L'échec est ce révélateur qui va sonder et tout mettre en lumière. Et quand Dieu s'en sert pour mettre une partie de nous à la lumière, c'est parce que c'est un point que nous devons travailler. L'échec n'invente pas qui nous sommes. L'échec n'a pas inventé qui était Pierre. Il l'a juste révélé. Et c'est à moi maintenant de travailler et de voir ce que je veux en faire. L'échec ne disqualifie pas. Quand nous le vivons, nous pensons que c'est la fin des haricots. On dit, bon, pour moi, c'est terminé. Dieu ne pourra plus jamais m'utiliser après ce que j'ai fait, après ce qui m'est arrivé, après mon échec, c'est fini. Nous sommes ébranlés dans notre identité de fille et de fils. Mais Romains 8 nous dit quelque chose qui doit nous rassurer, qui nous rassure. Romains 8, verset 1. On le connaît tous par cœur, on peut le dire ensemble, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour toi Pierre, il n'y a aucune condamnation pour toi Mathée, il n'y a aucune condamnation pour aucun d'entre nous, aucune. Et pour appuyer ça encore, psaume 37, versets 23-24, l'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Ça veut dire que c'est possible de tomber. Donc tu n'es pas un extraterrestre parce que tu es tombé. Il n'y a pas de condamnation pour le juste qui tombe. Tu n'es pas anéanti puisque Dieu prend ta main et te relève. Vous savez, en général, en pédagogie, on explique quelque chose et après, on fait de la mise en pratique. Et Dieu a fait avec moi une mise en pratique cette semaine dont je me serais bien passée. J'étais dans la cuisine mardi soir et bon, j'ai des petits soucis d'équilibre et de vertige, mais ça remonte à longtemps. Et donc, j'ai tourné un peu trop vite, j'ai fait un mouvement et j'ai perdu l'équilibre. Je me suis raccrochée à ce qui était au plus près de moi, c'était un tabouret haut qu'on a dans notre cuisine. Le tabouret surpris par mon intervention, il est parti et je me suis retrouvée assise au milieu de ma cuisine. Alors bon, j'ai vérifié que tous les abattis fonctionnaient bien et puis j'ai constaté que je ne pouvais pas me relever. Je vous explique qu'il y a 20 ans, enfin presque 20 ans, j'ai eu un accident et mon genou gauche ne plie plus. Enfin, il plie juste pour marcher, mais je ne peux ni m'accroupir, ni me mettre à genoux. Voilà, il dysfonctionne. Et là, ben, j'ai vraiment pris conscience de ce dysfonctionnement. Mais Alain, qui était dans la pièce à côté, il a entendu le bruit et il dit « Qu'est-ce que c'est qui est tombé ?» Et j'ai répondu « C'est moi !» Et il a couru. Il est venu à mon secours. Il m'a pris la main et il m'a aidé à me relever. S'il n'était pas venu, je serais toujours assise dans ma cuisine. Et si j'avais dit, oh non, non, ben laisse tomber, je vais me débrouiller, je suis une grande fille. Je serais toujours assise dans ma cuisine. L'Éternel me prend la main, l'Éternel te prend la main, l'Éternel lui prend la main. Pierre a vécu un échec. Il s'était engagé à ne jamais renier Jésus, et en quelques heures après, ben, il l'a fait trois fois. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu a retiré la parole qu'il avait posée sur la vie de Pierre. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et Pierre est resté ce pilier pour l'Église. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il est resté ce pilier. Pourtant, il a connu cet immense échec de renier Jésus trois fois. Et Pierre, il a honte. Là, au moment où on lui annonce que Jésus est ressuscité, il a honte. Et dans sa tête, il se voit encore assis près de ce feu. Il entend le chant du coq. Et il revoit le regard de Jésus, parce que Jésus l'a regardé. Jésus était tellement triste. Et il est encore glacé. Et il s'est dit, ma vie est un échec. C'est fini tout ça, je tire un trait là-dessus. Ça a été un beau rêve, mais voilà, je retourne à la pêche. Pierre se disqualifie. Mais Dieu ne l'a pas disqualifié. Et quand Jésus lui a posé trois fois la question, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit oui, mais il se sent très mal. Parce que c'est une chose de dire oui, mais c'est une chose de montrer qu'on aime Dieu. Pourtant, Jésus lui confie de nouveau sa mission, prendre soin des autres, preuve que Pierre est apte à la remplir. Il va ressortir plus fort de cet épisode malheureux. Et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. C'est pas fini pour toi, Pierre. C'est pas fini pour nous si nous tombons. L'échec ne peut pas annuler notre salut ni arrêter le plan de Dieu pour nos vies. Ton échec n'est pas ton identité. C'est juste une étape que tu traverses. Ce n'est pas toi. Rien n'est définitif dans l'échec. L'échec ne te définit pas. Proverbe 24, 16 nous dit « Car sept fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Qui tombe dans cette phrase? Pardon, excusez-moi, je n'ai pas pu m'en empêcher. Quel est le sujet du verbe « tomber » ? Vous avez oublié toute votre grammaire, votre conjugaison, hein? Qui tombe, ben c'est le juste. Le juste, c'est moi, c'est toi. Ok, on tombe. Mais à chaque chute, Jésus nous relève. Il relève le juste, il me relève, il te relève. 7 fois, 15 fois, 100 fois, 1000 fois. Dieu te relève. Ce n'est pas juste un verset. C'est un puissant rappel que l'échec, les épreuves, les revers de la vie ne définissent pas ceux qui sont justifiés par Dieu. Tu es fils ou fille de Dieu. Et la victoire de Pâques fait de toi un héros, parce que la vie divine coule en toi. Alors si le héros que tu es est fatigué, si ta vie ressemble à un vrai bazar, Dieu te relève. Il te relève toujours. Alors ton sentiment d'échec peut s'appeler, je sais pas moi, relation, profession, finance, blessure profonde, ressentiment, impression de vie ratée, frustration, addiction, peur. Tu peux rajouter tout ce qui te cloue au sol et t'empêche de prendre ton envol. Le juste se relève toujours parce que le jour de Pâques, la vie a triomphé définitivement de la destruction. Le jour de Pâques, la vie a triomphé définitivement de la destruction. Et ce matin, Jésus te pose la question, m'aimes-tu ? C'est la main tendue vers toi. Il veut que tu reprennes vie. Pierre a eu 3 fois l'occasion de manifester son attachement à Jésus, comme pour effacer son égarement en 3 épisodes. Et quand on voit Pierre après, à la Pentecôte, il était méconnaissable. Pourquoi ? Parce qu'il a accepté la main tendue de Jésus et parce que le Saint-Esprit est passé par là. Vous savez, si l'Église est là aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que Pierre s'est laissé toucher par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut passer aussi par ton cœur. Et il veut te rendre méconnaissable. Ce matin, Jésus te dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Pourquoi aurait-il prié pour toi, pour moi, s'il ne savait pas que nous serions secoués ? Il savait. Il est la vie. Il est vivant. Et tu es vivant avec lui. Et comme la mort n'a pas pu retenir Jésus dans le tombeau, l'échec ne peut pas te retenir non plus. Il faut juste que tu désires cette vie, que tu l'aspires à plein poumon, que tu prennes la main tendue de Jésus. La question c'est, le veux-tu ? Seigneur, nos cœurs chantent ce matin parce que c'est Pâques. Ils chantent chaque matin parce que tu vis en nous. Tu nous as promis des fleuves d'eau vive et nous les accueillons ce matin. Parce que tu nous restaures, nous voulons être une source de vie et d'encouragement pour ceux que tu nous confies. Sois béni, sois glorifié, honoré de chacun de nos cœurs. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons et nous voulons te servir, te rendre gloire. Merci, Papa.